Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Aimons nos prêtres, hein, ces pauvres types que Dieu a choisis, c'est le sous-titre de ce livre qui est paru aux éditions de première partie. Vous découvrez son auteur depuis le début de la semaine et c'est une grande joie de vous accueillir ici même donc dans cette émission et cette série des clés pour vivre. Je vous salue sans plus tarder, vous venez de loin, vous venez de Martinique et vous êtes ici dans ce sanctuaire Marielle de Lourdes. Bonjour Monseigneur David Macaire.
Bonjour Nathalie.
Alors on est sérieux, hein. L'heure est grave mais en même temps l'heure est grave. Mais notre bonheur est grand car on est fait pour le ciel. Et si je ne me trompe, le saint Guéré d'Ars, tous les saints qui nous ont précédés nous rappellent que la vocation sacerdotale, c'est de montrer aussi cette route qui est vraiment l'autoroute pour le ciel, pour cette vie éternelle. Le prêtre a sa vie de prière, le prêtre a sa vie intérieure. Mais dans un brouhaha avec des réseaux sociaux, avec du bruit, des agitations, on demande toujours plus aux prêtres. Comment préserver cette vie intérieure? Comment préserver au mieux cette cellule intérieure du prêtre pour qu'il évite de tomber, pour qu'il évite toutes les peaux de banane, si je puis dire, Monseigneur David Macaire?
Alors, merci de me poser la question. Je ne voudrais pas non plus donner des leçons parce que les prêtres, notamment les prêtres diocésains, quels qu'ils soient, même les nouveaux, même ceux que j'ai eu la joie d'ordonner, sont plus expérimentés que moi. Ce n'est pas parce que je suis évêque que je sais mieux qu'eux comment garder leur vie de prière. Par contre, eux et moi, nous savons qu'ils doivent l'avoir, et les fidèles aussi. Ce qui remplit leur vie, c'est notre vie, c'est, bien sûr, c'est le ministère. C'est la célébration des sacrements. Il n'empêche que les temps de, et cela n'est pas incompatible, les temps de silence sont reçus dans la vie sacerdotale comme des cadeaux. Cela dit, il arrive comme des cadeaux immenses, hein, vraiment, le temps de repos dans l'esprit. Comment dire ? C'est un repos dans l'esprit, les temps de silence. Évidemment, il y a des pièges. J'en noterai deux là comme ça rapidement parce que je suis avec vous. Le premier piège est celui du téléphone, du portable, comme de tout homme dans notre société. Comme les pères de famille, les mères de famille aujourd'hui, les jeunes, nous finissons par être addicts à notre portable parce qu'on a beaucoup de téléphones, parce qu'on a les offices sur le portable, la Bible sur le portable, le téléphone de maman, le téléphone de la paroissienne, du paroissien, de l'évêque, etc. Donc finalement, bon, on finit par être scotché le nez dans notre écran, donc il y a ce danger. L'autre danger, paradoxalement, c'est que nos temps de prière soient pollués par la préoccupation pastorale, mais qui est en même temps une forme de charité. C'est-à-dire qu'on est tellement... La charité nous presse, dit saint Paul, et elle nous presse tant qu'on a du mal à un moment donné à fermer les écoutilles. Comme je disais hier, on n'est pas près de 8h à 17h. À 21h, l'entretien qu'on a eu à 10h du matin, il est encore là parce que c'est Madame Untel qui est enceinte pour la troisième fois, dont le mari qui est venu nous mettre sur la table qu'elle est tentée de ne pas garder le bébé, alors qu'on a envie de... Voilà, on lui a dit les choses, mais elle l'a dit, donc du coup, on porte cela. On n'est pas des sortes de... Je sais pas moi, on n'est pas éthérés, on n'est pas des esprits éthérés. On est incarné et on porte la souffrance de ce monde. C'est Monsieur Untel qui est venu nous dire que qu'il a fait des bêtises, qu'il a fait du trafic de drogue et qu'il ne sait pas comment s'en sortir, ou de plus belles choses aussi, des choses merveilleuses. Et donc notre prière polluer, le mot est violent. Envahie par ses préoccupations pastorales, en même temps, il faut qu'elle le soit. Le mot sacerdoce, le prêtre, c'est celui justement qui prend la vie des hommes et qui la porte vers Dieu. Vous voyez ce geste à la messe ou dans tous les sacerdoces, même païens, où le prêtre est celui qui va porter une offrande vers la divinité.
Voilà. Donc ce prêtre-là, à l'autel, on l'imagine bien, voilà. Et là aussi, et comme bien, s'offrir
prière,
aussi dans son sacerdoce.
Bien sûr, dans sa prière, il est tout seul le soir dans son oratoire ou à genoux au pied de son lit, et il fait sa prière et toute la vie des hommes, les gens souvent demande prier pour nous, mon Père, etc. Et nous le faisons. C'est une mission première. Puis en même temps, il faut aussi que cette prière, elle soit dénudée, elle soit silencieuse pour laisser Dieu parler. Et c'est un vrai challenge. Dieu merci, beaucoup, de plus en plus de prêtres aujourd'hui ont des refuges spirituels, soit avec deux, trois autres prêtres qui se réfugient pendant quelque temps, soit un couvent, un monastère, un lieu. Mais c'est nécessaire parce que sur la paroisse elle-même, on porte, les lieux eux-mêmes portent la, des difficultés.
Alors, vous êtes ici même à Lourdes en mission puisque vous avez été appelé à la prédication pour une retraite sacerdotale. Qu'est-ce que vous avez adressé dans vos retraites, hein, quand vous vous adressez à des âmes sacerdotales?
Ça dépend, il y a un thème, mais ils ont, les prêtres...
Quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, leurs soifs?
Quand ils viennent en retraite, ils ont besoin de se reposer.
Reposer.
Qu'on prenne soin d'eux.
Le prêtre fatigué, le prêtre est épuisé.
Terriblement fatigué intérieurement, physiquement.
Découragé parfois dans sa mission.
Oui, découragé parfois, comme tout homme, bien sûr. Mais je vous le disais l'autre jour,
comme
les médecins, les professeurs aujourd'hui en particulier, parce que notre rôle n'est plus reconnu comme il était avant, notre autorité, alors qu'on a des choses à dire à la société. Et on entend, si j'ose dire, en étant méchant, des gens plus... peut-être pas plus bête, mais moins, comment dirais-je, pas tenté que nous, qui donne des avis sur tout, alors que nous, on a scruté l'évangile et donné notre vie sur, pour cela. Donc il y a une souffrance, il y a une vraie souffrance. Mais vous voyez, ce sont des hommes qui ont donné toute leur vie, qui ont renoncé à avoir un métier, une famille, pour pouvoir... être au service des autres, prendre soin. Le mot curé, ça veut dire qu'il prend soin. Et c'est bien qu'en France, qu'on appelle les prêtres les curés, avec un petit côté péjoratif, mais un petit côté amoureux aussi. Ah, les curés. Eh bien, les curés, ça veut dire ceux qui prennent soin, comme quand on va en cure, n'est-ce pas? Et ils ont des difficultés à ce qu'on prenne soin d'eux. Alors, qu'on les flatte, qu'on leur donne des machins, ça arrive, pas partout. Mais qu'on prenne vraiment soin d'eux. Allez, maintenant... soit dans le repos, on va prêcher pour toi, tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas te nourrir de la parole de Dieu. Dans la première homélie du livre que vous avez en main s'appelle « À cause de vos faiblesses ».
Oui, c'est vrai.
Je sais pas si vous avez noté
cela. C'est vrai, oui, tout à fait. Parce on que aurait pu en parler.
Quand on, ordonne un prêtre, c'est pas la première que j'ai faite, mais j'ai envie de dire c'est celle qui m'a le plus plu, personnellement.
Et c'est l'une des raisons aussi qu'elle arrive peut-être en premier ce livre, hein, à cause de vos faiblesses. Oui, je l'ai noté.
Parce que, en fait, quand on ordonne un prêtre, on dit savez-vous s'il a les aptitudes requises? Alors là, un éloge, une éloge dithyrambique, enfin, pas forcément, mais voilà. Mais en réalité, quand un homme s'avance vers le sacerdoce, c'est justement à cause de ses faiblesses, c'est parce qu'il les connaît. Il connaît ses faiblesses. Que l'Église aussi connaît ses faiblesses, donc pas évidemment, elle connaît aussi ses forces du coup, mais et qu'il sait appréhender et qu'il va offrir ses faiblesses au Christ et au peuple de Dieu. Il a réussi à vaincre sa faiblesse, ses faiblesses, ses limites, pour dire je réponds à l'appel de Dieu. Et voilà, parce que les prêtres attendent, c'est pas qu'on les plaigne, hein, rassurez-vous, ce sont des grands garçons, mais qu'on, voilà, ils ont quand même droit à l'erreur parfois, ils ont droit à des limites, mais on doit exiger d'eux d'annoncer et de servir la sainteté des fidèles.
Alors, vous permettez, avant de nous quitter, on vous retrouve encore demain. Alors, des fidèles, certainement, derrière ce poste radio, sur nos radios chrétiennes, vous êtes écoutés cette semaine sur ce sujet aussi, au fond du sacerdoce, et puis vous rappelez aussi à nos auditeurs, auditrices, auditeurs, hommes, femmes, mariés, non mariés, séparés, divorcés, blessés ou non blessés par le sacerdoce, combien il est bon d'aimer nos prêtres. Je voudrais que vous vous adressiez directement, Monseigneur David Macaire, à nos auditeurs. Voilà, c'est presque une ordonnance médicale que je vous demande, Monseigneur David Macaire. Oui. Et on se retrouve bien sûr encore demain pour un dernier entretien.
Mais d'abord, Nathalie, il ne faut pas oublier que certains ont été peut-être blessés par des prêtres, par telle image d'un prêtre dans leur famille ou dans leur vie. Donc, le premier chemin, c'est qu'ils doivent demander, leur donner, accorder le pardon. Sinon, on n'avance pas. Comme on peut avoir été blessé par un instituteur, une institutrice, quelqu'un, un parent aussi, parfois. Ça arrive dans toutes les vies. Et justement, les prêtres ne sont pas parfaits. On leur demande de l'être et c'est pas illégitime. Mais voilà. Donc il y a peut-être un pardon à donner, même certains prêtres eux-mêmes et certains évêques, nous devons aussi poser cet acte intérieurement, faire la part des choses. La deuxième chose, c'est que où que vous soyez et qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, Vous le savez, il y a ces hommes qui ont donné toute leur vie. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont célibataires. Je sais que le célibat aujourd'hui est mal compris et critiqué, etc. Mais justement, c'est un signe auquel l'Église tient. Parce qu'il est le signe que cet homme qui est là, dans son presbytère, il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie personnellement pour que tu puisses aller le voir et dire « Mon Père, j'ai besoin de vous ». Et même si ça dépend du personnage, il est grognon, il est machin, il vient d'ailleurs, etc. Il est là pour toi. Et il le sait lui aussi. Et il sera là. Je peux vous le promettre. Et ça, c'est l'ordonnance. Il est là pour vous, vous aussi, fidèles paroissiens, qui connaissez des prêtres ou un prêtre très bien. Il a donné sa vie pour vous. Et donc, ayez confiance. Pas une confiance aveugle, parce qu'il n'y a que Dieu qui mérite une confiance aveugle, mais une vraie confiance qui fait grandir cet homme qui a donné sa vie et qui vous fait grandir vous aussi. Son ministère est gratuit, gracieux. Il vient de la grâce de Dieu. Voilà ce que je veux dire. Il ne se monnaie pas. Et le bonheur du prêtre, la joie du prêtre, c'est le voir grandir les fidèles. De voir des fidèles lui. Un prêtre ne s'use, disait le père Manarange, que quand on ne s'en sert pas. Et un autre prêtre disait, c'est un curé d'Ars, il avait été curé à Ars, ça ne s'invente pas. Il disait, le père Perdry, il disait, j'ai découvert qu'un prêtre est d'abord un confesseur. Vous voyez, Jean-Paul II avait fait ça, je l'ai fait une fois moi-même, à l'imitation de Jean-Paul II. Il avait rencontré un prêtre qui allait très mal, qui avait quitté le sacerdoce, qui était même devenu, je crois, enfin, il était arrivé au plus bas, il était devenu clochard, etc. Enfin, voilà. Et Jean-Paul II a tenu à le recevoir, et quand il est arrivé, Jean-Paul II s'est mis à genoux et dit « Mon père, confessez-moi ». Et ça a relevé ce prêtre, parce qu'il a donné sa vie pour ça, quel que soit son état d'élabrement personnel. Vous voyez, c'est comme un marteau, quel que soit son état, j'ai besoin de clouer un clou, j'utilise. Voilà. Eh bien, c'est ça. Ce prêtre est là, il a donné sa vie pour que mon âme, à moi, puisse grandir. Et c'est son bonheur, c'est sa joie, c'est sa vocation, c'est sa base. Son toit.
Et c'est sa joie, c'est votre joie aussi, hein, ce partage.
Mienne,
voilà,
sûr,
et votre
sûr.
Joie aussi, et puis votre fidélité. On imagine bien, je ne vais pas répondre à votre place, Monseigneur David Macaire, hein, mais ce oui, il faut le redire chaque jour pour la mission.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien de le redire. Ouais.
Alors, merci pour votre oui d'aujourd'hui et puis pour votre oui de demain. Puisque...
Oui. On se retrouve, c'est vrai.
Voilà,
à
si
demain.
Vous voulez bien, on se retrouve demain à cette même place et pour cette même mission. À demain.